Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Et ce matin, on parle de l'unique représentation disponible du fondateur de la religion primordiale de l'Occident. Vous l'avez saisi, c'est bien le Saint-Suaire dont il s'agit. On en parle ce matin avec Arnaud Upinski, notre grand témoin, jusqu'à 8h30 en direct. Bonjour Arnaud Upinski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que c'est une question complexe, mais l'actualité évidemment fait écho à cette question à la lumière du voyage du pape Benoît XVI hier à Turin, qui a affirmé, donc dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, il s'est rendu dans cette cathédrale où se trouve exposé le Saint-Suaire. L'ostension dure jusqu'au 23 mai. On va avoir l'occasion de parler de tout cela. Je vous présente en deux mots quand même pour bien saisir qui vous êtes sur cette question-là. Vous êtes épistémologue, mathématicien. Épistémologue, on peut définir en deux mots l'épistémologie, Arnaud Upinski?
C'est la science de la vérité, le tribunal des sciences.
Voilà, c'est un petit peu un tribunal ce matin alors, un tribunal en direct.
C'est un procès.
Un procès, voilà. Jusqu'à 8h30 en direct, un procès. Le procès de l'homme du linceul peut-être, mais ça c'est celui que fait les médias aussi. On aura l'occasion aussi peut-être d'en parler. Mathématicien spécialiste du Saint-Suaire, vous avez dirigé le Symposium de Paris en 1993 qui a réuni une soixantaine de scientifiques qui ont conclu à l'authenticité du linceul de Turin.
De Rome. On parle
de Rome, pardon. Paris, c'était 1989, mais vous l'avez aussi dirigé, le symposium de Rome.
Non, j'ai fait la synthèse épistémologique.
D'accord, vous étiez partie prenante des deux symposiums, et vous avez dirigé le second symposium en 1993. Alors, une précision quand même, c'est un événement qui a réuni il y a 20 ans, au moment où éclatait aussi la polémique du carbone 14, en réponse à cette polémique du carbone 14 de 1988. 60 scientifiques qui ont conclu à l'authenticité, on en parle assez peu aujourd'hui, c'est une référence à laquelle les médias font assez peu allusion, cet événement scientifique. Aujourd'hui, c'est un petit peu la science qui va parler du linceul et non de la foi. Je voulais simplement renvoyer à une phrase de Benoît XVI qui, justement, que je vais vous faire commenter, puisque c'est celle qu'il a citée hier à Turin. Le Saint-Suaire parle avec le sang est la vie. Et le pape Benoît XVI a affirmé qu'il s'agissait d'une icône écrite avec du sang. Alors, sur cette première assertion, quelle est votre réaction, Arnaud Upinski?
Écoutez, je voudrais d'abord dire tout de même que...
En tant que scientifique.
Bon, d'abord, vous venez de dire qu'effectivement, la science française qui a fait l'essentiel sur le linceul de Turin est complètement occultée, ce qui est un signe d'authenticité, parce qu'effectivement, c'est conclusif. Hein. Donc, avant la datation carbone 14 et avec le symposium de Rome, qui a conclu l'authenticité, et on censure également même le British Museum. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, soit qu'on assiste, et je vais parler de cette phrase, mais il faut quand même un cadre pour comprendre, on assiste au triomphe actuellement de la science, des évangiles et du linceul de Turin, donc qui est invincible, comme archéologie de la vérité, comme témoignage de la vérité. Et donc, c'est le triomphe, puisque il y a 20 ans, tout avait été dit, notamment sur le carbone 14, et enfin maintenant, ces faits sont acquis, c'est la confirmation également de mon livre, donc l'Église à l'épreuve du linceul, parce qu'il y a 20 ans, c'était la science à l'épreuve du linceul, maintenant c'est l'Église à l'épreuve du linceul, et on a une information qui est marquée par la confusion des champs sémantiques actuellement. C'est-à-dire que je vais répondre à votre phrase, bien entendu, mais il faut bien comprendre que celui qui n'est pas au courant est promené d'un côté ou de l'autre, puisque au début du mois dernier, c'était la question d'Arte qui était au premier plan, c'est-à-dire c'est l'effondrement du carbone 14 qui est lâché, et puis maintenant on a un peu l'impression qu'on a l'air de revenir en arrière. Bon, et je retrouve ce que j'avais vu avec les mathématiques modernes sur lesquelles j'ai travaillé. On vous disait 4 est un nombre premier, implique que Lyon est capitale de la France, il ne faut voir dans l'implication aucune des déductions, et là ce vocabulaire l'est supposé. Ce qui faisait dire à une de mes élèves 0 égale 1. On est un petit peu dans cette situation. Alors, d'autre part, ce qui est important,
confusion des champs sémantiques.
Oui, qui est la folie, c'est le signe de la folie, c'est confusion des champs sémantiques, qui est une spécialité de l'information actuelle. Mais derrière ce brouillard, ce qui est très important, c'est, première chose, tout le monde, je l'affirme catégoriquement, comme j'avais affirmé il y a 20 ans, tout le monde sait que, le linceul de Turin est scientifiquement authentique, et je dirais que tout le monde sait, ou ressent, ou craint, qu'il y ait le signe de la résurrection. Et le mot résurrection n'est pas prononcé comme tout un ensemble de mots, traces, empreintes, linge, relique, résurrection, authentique. Ce sont les mots qui ne sont pas prononcés. Comme le symposium de Paris.
Authentique, qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Alors, authentique, ce n'est pas justement n'importe quoi, c'est-à-dire que j'affirme que linceul de Turin est scientifiquement authentique au troisième degré par défaut, comme deux triangles qui ont leur côté égaux sont égaux entre eux. C'est-à-dire, premièrement, authenticité, d'abord, on élimine la question du faux. Bon, donc ça, la première chose à éliminer, faux ou peinture. Deuxièmement, il sera au premier degré si le linceul a enveloppé un authentique cadavre, le linceul étant lui-même n'était pas artefact. Deuxième degré, si on peut identifier ce cadavre et que c'est bien Jésus de Nazareth, personnage historique Mavalon 30. Et troisième degré, c'est est-ce que c'est le linceul, pour faire très court, du dernier chapitre des évangiles, c'est-à-dire la résurrection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a plus que la mort, et c'est le point essentiel qui fait, qui fâche, si je peux dire, sur le linceul de Turin. Et si jamais il n'y avait pas cet autre point, le linceul de Turin serait reconnu maintenant universellement comme authentique, comme si on avait la toge de Jules César, percée de coups, qui ne poserait qu'un problème. Bon. Mais, ce qu'il faut dire.
Donc, l'authenticité par défaut, le défaut, qu'est-ce que cela révèle, cette expression
alors,
par
le
défaut?
Le défaut, ça veut dire que le linceul de Turin, le ticket scientifique, va jusqu'à la dématérialisation. On aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que, l'utilisation des moyens les plus modernes permet de constater que le corps est sorti du linge d'une manière inexplicable par les moyens habituels, mais par une chose qu'on connaît, c'est la dématérialisation, c'est-à-dire disparition de particules accompagnée de dégagement de chaleur, qui explique à la fois l'empreinte et l'image. Bon. Mais par défaut, ça veut dire que si nous ne possédons pas les évangiles, qui est une deuxième pièce archéologique du 1er siècle, eh bien cette chose serait inexplicable. C'est-à-dire que la science dirait, bien, il y a un cadavre qui s'est évaporé en quelque sorte. Mais en regardant la deuxième pièce archéologique, comme on le fait dans tous les romans policiers, excusez-moi de le dire, eh bien on constate qu'il y a cette explication. Donc par défaut, d'autre explication, c'est bien le linceul de la résurrection.
C'est-à-dire que ce qui prouve la résurrection en quelque sorte, c'est qu'on ne puisse pas l'approuver.
Alors,
c'est-à-dire qu'on a, on a une image dont on ne sait pas comment elle s'est inscrite sur le linge aujourd'hui, matériellement parlant.
Si on le sait, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant sur linceul de Turin, on dit que c'est inexplicable, il y a effectivement un mystère, c'est que linceul de Turin rend compte d'une science futuriste, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du numérique, puisqu'on ne sait pas refaire cette image, donc on ne possède pas la science de la résurrection, enfin, certains dans, vous savez, âge pour rajeunissement le souhaitent, mais sinon tout est explicable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche de l'esprit qui est obligée de faire la synthèse, en quelque sorte, de chaque élément dont chacun scientifiquement ne pose aucun problème. D'ailleurs, le linceul de Turin, je tiens à le dire, ne pose aucun problème aux scientifiques. C'est aux religieux qui posent le problème, puisqu'on a affaire à une bataille à l'envers depuis le début entre les scientifiques et les artistes qui constatent l'authenticité, traduit par le terme acheropoietos depuis les Byzantins.
Non fait de main d'homme.
On a des religieux et des historiens qui ont un problème apparemment avec, j'allais dire, la résurrection.
Arnaud Pasqui, on va en parler ce matin, on va essayer de vous resituer brièvement. Vous êtes un petit peu de tous les combats contre ce que vous appelez vous-même les falsifications. On se souvient de votre révolte contre l'exposition de Jeff Koons à Versailles, on avait eu l'occasion d'en parler ici même. Difficilement classable, cela tombe bien, car vous avez horreur des étiquettes. Vous vous définissez vous-même comme un personnage atypique, Marion Duchesne.
Je cherche à incarner dans l'action l'objectivité essentielle du verbe, une quête de la vérité, du beau et du juste qui, chez Arnaud Upinski, est devenue une passion dès l'âge de 8 ans. Sur son enfance, pas un mot de plus, l'homme préfère rester discret. En revanche, on en sait un peu plus sur son parcours. Arnaud Upinski est d'abord mathématicien. Les années 70, il est prof de maths et déjà une première idée de livre. Il publie 2 plus 2 égale 5 et critique ouvertement la falsification de l'enseignement et la destruction de l'intelligence. Pour la petite histoire, c'est le dessinateur Hergé qui lui a suggéré le titre de son ouvrage. Je suis allé le voir à Bruxelles pour des illustrations et il m'a tout de suite comparé à Tintin. De fait, Arnaud Upinski n'hésite pas à utiliser les méthodes du reporter, que ce soit pour dénoncer une république étrangement muette ou encore la falsification de la littérature contemporaine. Le scientifique n'a de cesse de décortiquer l'histoire, la réalité en mouvement. 1993, il dirige le symposium de Rome et cette fois, Arnaud Upinski conclut à l'authenticité du linceul de Turin, faisant abstraction de toute attitude religieuse. Si l'on applique au suaire de Turin les méthode d'une enquête policière, dit-il, la seule conclusion est que le suaire a enveloppé Jésus de Nazareth.
Alors ce qui est intéressant et ce qui retient notre attention ce matin, Arnaud Upinski, c'est précisément qu'on se situe du point de vue scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas la foi qui donne la certitude, c'est la certitude qui donne la foi en quelque sorte.
Oui, alors c'était ce qui est très, ce qu'il faut bien dire, parce qu'on entend dire beaucoup de choses à cet égard, notamment je cite certains passages, c'est que la science, il y a 5 parties dans l'épistémologie de la science, il y a premièrement l'observation expérimentale, deuxièmement la mesure, troisièmement une théorie pour expliquer l'ensemble, soumis au débat contradictoire, quatrième, et validé par une procédure. C'est ce qui montre que la datation carbone 14 était scientifiquement fausse. fausse parce qu'elle ne correspondait pas à ces critères. Donc, le linceul de Turin a les deux côtés. D'un côté, la raison, si on peut dire, c'est la science, mais peut-être but du côté religieux, bien entendu. Et ce qui fait...
Mais quand vous dites que ça ne pose aucun problème pour la science aujourd'hui, ça c'est une réalité.
Mais c'est une réalité. Bah, disons que nous avons vu à Rome, en réunissant l'ensemble de la communauté scientifique internationale engagée dans la recherche, que aucun scientifique n'a un problème. Il fallait simplement faire l'ensemble qui était la synthèse et qui a conclu. C'est-à-dire que le scientifique voit, cherche à comprendre et croit à ce qu'il a vu. Donc ça ne pose aucun problème. Tandis que la démarche qui nous est proposée, notamment par Frédéric Lenoir, qui dit on est coincé dans cette histoire entre des chercheurs croyants, le monde des religions, cherchant des croyeurs, des chercheurs croyants qui veulent absolument démontrer l'authenticité, et puis, dit-il, des rationalistes de totale mauvaise foi, etc., qui veulent démontrer la posture. On oublie la science. C'est-à-dire que depuis les Grecs, nous savons que l'opinion est l'ennemi de la pensée. Or, on ne parle que d'opinion. Depuis Protagoras, nous savons, sur toute question, on peut dire une chose et son inverse. Donc la question, c'est quelle est la procédure scientifique ? Donc le scientifique, il est, si vous voulez, dans le brouillard. Qu'est-ce qui permet à un avion d'atterrir dans le brouillard ? Parce qu'il y a des instruments. Le scientifique a des instruments, il suit les instruments, il a la foi, entre guillemets, en ces instruments, qui lui donne une conclusion. Et cette conclusion, elle est reproductible, et si elle n'est pas contradictoire, on arrive à une certitude, c'est pour ça que les avions volent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'authenticité du linceul de Turin vole également, c'est que on a... Donc quand j'ai réuni la communauté scientifique, il fallait qu'il y ait plusieurs critères. Il fallait qu'il y ait l'exhaustivité, c'est-à-dire que tout le monde était convié, y compris bien entendu tout le monde, ceux qui n'étaient pas d'accord. Ensuite, il fallait qu'il y ait la représentativité et conclure. Et donc ça ne pose absolument aucun problème à la science. Il y a d'ailleurs, tout est scientifique sur la salle de Turin. Il n'y a qu'une chose qui est un mystère, si on peut dire, pour la science, c'est ce que j'ai appelé l'impression retrait sans contact, qui tient un fil, diraient certains, mais qu'il faut interpréter, c'est-à-dire que quand vous cherchez à reconstituer ce qui s'est passé dans la toile. Bon, toutes les parties sont scientifiques, et d'ailleurs, je tiens à dire que linceul de Turin est la pièce archéologique la mieux mesurée au monde. C'est la plus chargée de sens de tous les temps. On pourrait dire qu'elle est Pantocrator, du point de vue scientifique, d'une certaine manière. On peut voir des comparaisons. Mais donc, chacun fait son travail conclu. Alors, toute l'astuce, j'allais dire, du carbone 14, c'est de dire tout ce que vous dites est vrai, mais ça s'est pas passé à ce moment-là. Mais il n'y a aucun problème scientifique. Alors, en revanche, il y a cette impression retrait sans contact qui doit expliquer ce qu'est devenu le cadavre. Et c'est ça la grande question. Mais l'explication tient à la dématérialisation et qui est le dernier. C'est jusqu'à ce point que le ticket scientifique nous mène. Et après, on change de regard éventuellement. Mais ça, c'est une autre question.
Alors, on en parle juste après l'Évangile. Arnaud Ipinski, notre grand témoin ce matin. L'Église à l'épreuve du linceul aux éditions François-Xavier de Guibert. 8h moins le quart.
Radio Notre-Dame, Louis Dauphren.
Ce matin en direct jusqu'à 8h30, c'est Arnaud Ipinski, l'Église à l'épreuve du linceul, le linceul de Turin bien sûr. C'est aux éditions François-Xavier de Guibert avec ce sous-titre « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» avec un point d'interrogation. On essaie d'en parler, mais c'est le point de vue de la science qui nous intéresse. Ce matin, on parlera de l'attitude de l'Église juste après 8h, si vous le voulez bien, Arnaud Ipinski. Une précision, vous avez précisé que c'était justement une bataille un peu à l'envers, puisque la science, vous avez réuni le symposium de Rome en 93, a conclu à l'authenticité, c'était en 1993, et vous dites « Pour les scientifiques, cela ne pose aucun problème. » problème l'authenticité, qui affirme que le linceul a bien enveloppé le corps du Christ. Puis vous avez insisté qu'il y a un point que la science ne peut pas, sur laquelle elle ne peut pas se prononcer de manière définitive, c'est l'impression retrait sans contact, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas reproduire ce qui s'apparenterait à la résurrection. C'est bien cela, Arnaud Ipinski. On ne peut pas le reproduire, mais on peut simplement induire que c'est bien l'événement qui a marqué le fait fondateur du christianisme.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le linceul de Turin est un film. C'est le film de la passion qui permet de millimétrer la foi, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on part d'un côté d'une expérimentation, et après, on va s'éloigner. C'est-à-dire, on est dans la science jusqu'à la dématérialisation, et après, il y a un certain espace, c'est le par défaut, mais on passe du côté religieux, par l'explication.
Donc, troisième degré par défaut d'authentification.
Donc, c'est le passage, en tout cas, de la réalité à la foi, qui est basé sur une certitude. C'est-à-dire, pour le scientifique, il ne peut croire qu'à ce qu'il voit. Ça, c'est le point essentiel. Alors, le deuxième point...
Mais la science, c'est bien la reproduction. Or, on ne peut pas reproduire dématérialisation du corps.
J'allais dire, l'humour, on peut dire, ou l'intelligence, ou la subtilité du linceul de Turin, c'est que c'est justement parce qu'il n'est pas reproductible, uniquement sur un point, l'impression retrouvée quand on est en contact, qu'il n'est pas falsifiable, et donc qu'il est démonstratif. Parce que si tout était reproductible, tout serait falsifiable. Et justement, le mot mystère qu'on voit partout, c'est la reconnaissance par tout le monde que, justement, il n'est pas falsifiable puisqu'il y a un mystère. Et c'est ce mystère qui est pas reproductible. Par définition.
Donc le paradoxe, mais c'est un paradoxe apparent, c'est le fait qu'il ne soit pas reproductible qui le rend authentique.
Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les choses dont on ne parle pas, personne n'est venu, parce que moi je m'y attendais depuis 20 ans, sur l'impression très sans contact, qui a été d'ailleurs repris par Van Kovelaert, d'ailleurs, qui l'a repris, c'est-à-dire on en fait des romans, cette impression très sans contact, mais évidemment c'est comme autour d'un plat trop froid ou trop chaud, personne ne veut mettre les pieds. Alors venons-en, ça c'est le point essentiel, c'est vraiment tout repose sur l'impression très sans contact. Et comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas ce signe, justement, qui est le signe de Jonas, nous pouvons en parler, effectivement, ça ne poserait aucun problème, parce que avoir le linceul de quelqu'un, d'un personnage historique qui est mort, ça ne pose aucun problème.
Ce serait l'équivalent.
Alors, comment
Jules
est-ce
César.
Qu'on y vient? Et ce sont les Français qui sont à l'origine de cette découverte. C'est que, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu un linge, qui ne pose aucun problème, il est authentique. Ensuite, on constate qu'il a enveloppé un cadavre, ça ne pose aucun problème, hélas. C'est pas le premier cadavre qui y est. Ensuite, on découvre qu'il est mort, ce qui est très important. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. C'est que, moi, je pensais que certaines personnes, certains contradicteurs allaient dire, nous tenons le linceul de cet imposteur, vous êtes d'accord sur le fait qu'il est mort, point barre. Bon. Et effectivement, le linceul dira, prouve qu'il est mort. Mais ce qu'ont constaté tous les contradicteurs, peut-on dire, c'est que le linceul de Turin est indirect et non pas un omnibus, du moins la démonstration, c'est que dès qu'on admet l'authenticité, on arrive au signe de la résurrection. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter à la mort. Parce que justement, ce qui permet de prouver l'authenticité, c'est ce signe de contradiction qui est l'impression retrait sans contact. Alors de quoi est-il fait, cette impression? On constate qu'il y a eu un cadavre, mais il y a deux sorties pour un cadavre, ou bien vous laissez il pourrit et il détruit tout, c'est ce qui se passe habituellement, ou bien vous l'enlevez, il y a un arrachement. Or, ce que les microscopes permettent de voir, c'est qu'il n'y a pas d'arrachement de fibrilles de lin ni de fibrilles de sang. C'est-à-dire que tout se passe comme si le corps s'était détaché, parce qu'il était attaché par son sang. Quand on a enlevé le pot, on voit ce que c'est, c'est-à-dire qu'on est attaché à son sang, d'une manière instantanée. Et c'est ce qui explique, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est que le linceul de Turin permet de comprendre ce qui s'est passé chez Jean, qu'on vient de citer, mieux que les évangiles ne le donnent, parce qu'on ne comprend pas, il vit et il crut, quoi. Bon, eh bien, ce qu'il vit, c'est qu'effectivement, ils avaient laissé un cadavre dans un linge, et tout à coup, il s'était affaissé. Et ça, c'est ce que disent les évangiles, qui correspond à la dématérialisation, c'est-à-dire à l'impression retrait sans contact, c'est-à-dire que le linceul donne des informations qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, et c'est par la science qu'on les découvre, à partir notamment des photos.
Il vit et il crut, ça veut dire que l'acte scientifique précède l'acte de foi.
Oui, alors ce qui est très important, c'est que je cite la phrase, c'est-à-dire qu'il vit et il crut, mais il faut citer la phrase entière, il n'avait pas compris. Donc il y a voir, faire marcher son cerveau et comprendre. Il n'avait pas compris que selon les Écritures, et on arrive au signe de Jonas. Et alors je voudrais quand même citer cette phrase qui était très importante, c'est-à-dire que derrière le linceul de Turin, il y a un immense procès qui est le procès des évangiles, c'est-à-dire qu'il y avait deux camps en quelque sorte. Il y en avait qui disaient, il blasphème, c'est un imposteur, il guérit par Belzéboul, donc c'est un sorcier ou autre chose que ça. Et puis alors, donc ça c'est d'un côté, et puis de l'autre côté, la réponse de l'Église, elle se trouve notamment dans le missel quotidien des bénédictins de Clairvaux, donc c'était le mercredi des quatre temps, première semaine de carême, n'est-ce pas? Les juifs demandent un signe, nous demandons tous des signes d'ailleurs, les juifs demandent un signe qui exprime et justifie, très important, exprime et justifie l'autorité revendiquée par Jésus. Ils recevront le signe de Jonas, c'est-à-dire celui de la résurrection. Le linceul de Turin tient compte du signe de Jonas. Ils refuseront ce signe et leur état deviendra alors pire que jamais, diaboliquement aveuglé. Donc c'est la question de l'aveuglement. Ils ne comprendront pas que le mystère, et là on retrouve le mystère, de la volonté de Dieu, dont l'accomplissement crée la véritable parenté du Seigneur. Donc ça c'est le terme extrêmement précis.
Bon. Alors, Arnaud Pasqui, bien sûr, on va essayer de détailler tout cela et voir, après 8 heures, ce que l'Église pense du linceul de Turin, parce qu'il y a une position aussi un petit peu à clarifier sur le sujet. Le pape Benoît XVI, qui s'est rendu hier à Turin, a rendu hommage au Saint-Suaire, puis a affirmé, peut-être une chose que vous allez justement commenter, il a affirmé la chose suivante, qu'il s'agissait d'une icône écrite avec du sang, que le Saint-Suaire parle avec le sang et la vie. On va revenir sur ces expressions dans quelques instants peut-être. Pourquoi l'Église, peut-être une précision quand même Arnaud Pasqui avant de détailler un peu ces aspects-là, pourquoi l'Église est-elle à l'épreuve du linceul? Parce qu'en soi c'est un petit peu un combat à front renversé, la science est du côté grosso modo, si je vous comprends bien, de l'authenticité. L'Église elle est beaucoup plus prudente, beaucoup plus réservée.
Alors on dit prudente, alors qu'est-ce que c'est que la prudence? C'est-à-dire que ce n'est pas prudent de donner une définition fausse. Bon. Et la définition qu'avait donnée le cardinal Saldarini pour l'ostension de 98...
C'est une icône, pas une relique.
C'est une icône, pas une relique. C'est-à-dire, on ne peut pas... C'est là que la vérité est incontournable, pourrait-on dire. C'est-à-dire, dès qu'on commence à dire « et », le verbe « être », on fait œuvre de scientifique d'une certaine manière parce qu'on affirme une réalité. On ne peut pas dire être sans moi. Alors, donc, si, comme le dit le cardinal Saldarini, qui disait, l'Église ne s'est jamais opposée à la science, c'est ce que je lui ai fait remarquer d'ailleurs à l'époque, c'était que, dès l'instant qu'on dit c'est une icône, on affirme une chose scientifique, ce n'est pas une relique également. Bon, et donc ça c'est une affirmation. Alors pourquoi
c'est une icône, pas une relique, Arnaud Ipinski, on s'y retrouve juste après 8h, on se retrouve sur cette question absolument essentielle, jusqu'à 8h30 en direct, l'Église à l'épreuve du linceul aux éditions François-Xavier de Guibert, à tout de suite.
Radio Notre-Dame, les matinales.
Et ce matin en direct jusqu'à 8h30, c'est le mathématicien Arnaud Ipinski qui a dirigé le symposium de Rome, c'était en 1993, qui a conclu à l'authenticité du linceul de Turin, le Saint-Suaire. Le pape Benoît XVI en a parlé hier, il était d'ailleurs à Turin justement. On va commenter les phrases de Benoît XVI puis voir quelle est l'attitude de l'Église à ce propos. L'Église à l'épreuve du linceul, Arnaud Ipinski aux éditions François-Xavier de Guibert. On en parle dans quelques secondes.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Qui peut rester indifférent devant le face-à-face entre la raison scientifique et le fait fondateur de la religion du Verbe, comme si le Saint-Suaire récapitulait l'histoire en quelque sorte. Ce matin, c'est l'aspect scientifique qui nous intéresse tout particulièrement, pas l'aspect historique du linceul de Turin directement, puisqu'il y a tellement d'aspects à explorer, Arnaud Ipinski. Vous êtes notre grand témoin ce matin en direct jusqu'à 8h30. L'Église à l'épreuve du linceul aux éditions François-Xavier de Guibert. Sous l'angle scientifique, vous nous avez dit que l'authenticité ne posait en quelque sorte aucun problème. Il y a l'impression retraissante contact qui est le seul point qui n'est pas reproductible, qui est en quelque sorte la preuve par défaut que le Saint-Suaire est bien authentique, puisque n'étant pas reproductible, ça n'est pas falsifiable. Et donc c'est une preuve de la singularité de l'objet archéologique, puisque vous le traitez comme un objet archéologique. Je rappelle que vous avez dirigé le symposium de Rome en 1993, qui a réuni une soixantaine de scientifiques qui ont conclu à cette authenticité. On était reparti sur l'idée que l'Église avait une position un petit peu, comment dirais-je, un petit peu ambiguë sur la question, puisque la position officielle de l'Église, c'était « c'est une icône, pas une relique ». C'était ce qu'avait déclaré en 1988, au moment de la datation 98, et puis en 88, au moment de la datation qui avait déclenché un petit peu toute la controverse.
Balestrero, oui.
Voilà, c'était le cardinal Balestrero qui avait déclaré que c'était une icône, pas une relique. Est-ce qu'on peut interpréter cette phrase, puis à la lumière de celle de Benoît XVI hier, à Turin, une icône écrite avec du sang?
Oui, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que la démarche de l'Église chère de vérité, le Christ a dit « je suis la vérité », a un fondement scientifique, puisque Marc Bloch disait « le christianisme est une religion d'historien ». Donc c'est quand même, et notamment j'ai regardé ce qui s'est passé avec les médailles miraculeuses, vous avez d'un côté un fait, vous avez une enquête canonique et vous arrivez à un dogme. Donc il y a toujours dans l'Église, tel que je l'ai compris du moins, la base est scientifique. Alors on va arriver à votre phrase. Pour le scientifique, il faut partir des faits. Bon, et la révélation, ça peut être la révélation d'un fait, bien entendu, comme la médaille, si je peux dire. Bon, et donc, ce à quoi sont invités les fidèles, c'est aller voir donc le linceul de Turin, mais qui n'a pas de statut d'authenticité. C'est-à-dire qu'on dit, vous regardez, vous croyez, et donc vous voyez. C'est un miroir, c'est ci, c'est ça, bon, on peut dire beaucoup de choses. Alors là, ça fait dire, d'une manière un peu humoristique à quelqu'un, venez voir mon faux, puisque si c'est une icône, est-ce que c'est une icône même d'un crucifié quelconque, d'un criminel? Certains ont même dit que c'est ce qu'avait dit Monseigneur Saxer, c'était des chrétiens qui crucifiaient, ça pourrait être le produit d'un crime. Donc on ne regarde pas la même chose, suivant ce que c'est, sauf si on est dans le relativisme absolu. Alors, par rapport à la phrase que vous dites, quel est le pilote, le moyen proposé par les Grecs dans ce brouillard, pour s'y retrouver? Est-ce que c'est une icône? Est-ce que c'est une relique? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est du sang? Etc. Eh bien, les Grecs partaient d'une définition. Parce que si on est dans le comme, on peut dire le matin comme le soir, on peut dire ce qu'on veut avec comme. C'est le miroir de ci, de ça,
avec
etc.
comme, c'est-à-dire
le mot comme.
Ah oui,
c'est comme ci, comme ça. Sous un certain rapport, tout est comme ci, tout est comme ça. Bon. Donc les Grecs avaient proposé de partir de l'être. Qu'est-ce que c'est? Bon, et donc ce que je suis actuellement avec le cardinal Saldarini et dans la dernière déclaration d'hier, c'est quelle est la définition? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors après, on en fait ce qu'on veut, si je peux dire. Or, la dernière définition du cardinal Saldarini, c'était « c'est une icône, ce n'est pas une relique ». Positif, négatif. Donc ça ne laissait aucune chance à l'authenticité. Parce que l'icône, c'est vrai sous un certain rapport, mais si c'est pas une relique, c'est reliquaire et reste, non. Maintenant, donc il y a une avancée qui a été faite hier par Benoît XVI, qui est très importante. C'est dans la phrase que vous avez détectée, effectivement,
une icône écrite avec du sang.
Est une icône écrite. Alors, une icône, ça n'en est pas au sens scientifique, puisque ce n'était pas une peinture sur bois. Écrite, ce n'est pas écrit. Et il y a du sang. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on revient, on réintroduit le sang. C'est-à-dire qu'on est parti d'une icône, pas une relique, à là, j'allais dire, une icône relique. Bon. Et donc, on progresse.
On est revenu un chemin un peu intermédiaire.
Voilà, on revient. Donc, j'allais dire, pour être positif, ça ouvre la voie à ce que nous demandons, ce que nous allons demander d'ailleurs, parce qu'un courrier va être adressé. Donc, c'est que puisque l'Église ne s'est jamais opposée à la science, c'est qu'elle s'aligne en quelque sorte sur la position de la science, qui est celle d'une relique authentique. Bon, donc c'est ce que nous allons demander. Et là, c'est un pas, c'est de réintroduire le sang, parce qu'effectivement, le sang, on est dans le statut maintenant de l'icône relique. Donc c'est un pas très important.
Mais d'ailleurs, il y avait un petit peu une contradiction, Arnaud Ipinski, puisque la personne qui s'occupe du Saint-Suaire, me semble-t-il, c'est une personne spécialisée en matière de sang chromatique.
Alors très bien, là, vous avez fait une très bonne remarque. C'est-à-dire que, si vous voulez, la vérité, on ne peut pas échapper à la vérité. Enfin, chacun de nous essaye parfois, mais on ne peut pas y échapper. Alors on peut, ce qui se passe actuellement, enfin jusqu'à l'ouverture de l'ascension, c'est qu'on présente le linceul comme s'il est authentique, on en parle comme s'il est authentique, mais on ne dit pas qu'il est authentique. Or, pour la conservation, il y a une décision à prendre. Et c'est là que la vérité, c'est pour ça que je dis que c'est l'heure de vérité pour l'Église, c'est que quand on prend une décision, c'est l'heure de vérité dans la vie. Parce que là, on ne peut pas s'en tirer par des mots. Or, quand il s'est agi de conserver le linceul de Turin, à qui a-t-on fait appel? Si c'était vraiment une icône, il fallait faire appel à un spécialiste, le spécialiste de la peinture. Or, on a fait appel à Alain Adler, qui est un spécialiste mondial du sang, et non seulement du sang tout court, mais du sang traumatique, qui est le cas d'un crucifié, puisqu'il y a plus de biribuline qu'on pouvait s'y attendre. Donc ça, c'est une preuve d'authenticité. Et donc là, dans la définition, actuellement, hier, il y a eu ce mouvement, qui est un mouvement qui va vers, effectivement, la reconnaissance de l'authenticité, qui est maintenant incontournable, parce que vous avez parlé de prudence, actuellement. La prudence, l'Église est dans une situation quand même très particulière, parce que le linceul de Turin, c'est quoi? C'est la preuve du fait fondateur du christianisme, il porte le signe de Jonas, c'est le premier évangile chronologique, puisque il est témoin du film de la foi du premier acte de foi des chrétiens, qui est celui de Jean. Donc les gens qui disent « ma foi n'a pas besoin du linceul », il se trouve que Jean en a eu besoin. Bon, je ne développe pas plus. Ensuite, c'est l'image du visage de Dieu. Donc dans, j'allais dire, la compétition, si on peut dire, des trois religions du livre, il y en a deux qui disent qu'il ne faut pas représenter le visage de Dieu, et il y a le troisième qui l'a dès l'instant qu'on le reconnaît. Donc c'est quand même pas rien, parce qu'on finit par l'oublier. Hein, c'est quand même particulier. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est que il ne faut pas l'oublier. On entend dire sur les antennes en manière permanente, l'Église n'a pas reconnu l'authenticité de la seule. Alors c'est vrai si on dit depuis le carbone 14, mais il faut dire qu'il y a eu trois épreuves pour le linceul de Turin, qui est très important. C'était qu'en 1390, je pars à lever là-dessus, il y a eu une première contestation qui est le mémorandum d'Arcy, et donc il y a Clément VII a fait continuer les ostensions. Donc je vais très rapidement. Deuxièmement, il y a eu quand même ce que j'appelle le statut...
Le mémorandum d'Arcy prétendait que c'était d'un faux.
Qu'il s'agissait d'un faux avec une peinture.
Voilà. Donc là, bon. L'Église en fait a statué
ensuite,
jusqu'à...
Non mais en 1400, jusqu'à ce qui est très important... Et ça, c'est
1988.
Une des innovations de mon livre, c'est le statut liturgique. C'est-à-dire que l'authenticité du linceul de Turin a été reconnue par Sixte IV dans la chapelle Sixtine en 1473. Mais donc l'Église a d'abord reconnu l'authenticité, puis en a tiré les conclusions liturgiques en 1507 par Jules II. Et le statut du linceul de Turin, la reconnaissance officielle par une liturgie, qui est toujours actuellement en cours, notamment chez les pénitents rouges à Nice, puisqu'on pourra en parler, eh bien, donc c'est un statut authentique sur 5 siècles. Plus de 5 siècles, c'est quand même pas rien. Et ce qui a fait basculer le statut d'authentique à icône par le cardinal Balestrero le 13 octobre 1988, c'est justement le carbone 14. Or il se trouve, et il faut en parler, que le carbone 14 maintenant, c'est fini, il est lâché scientifiquement depuis longtemps, puisque j'étais le premier à dire qu'il était scientifiquement faux au symposium de Paris, mais maintenant l'émission...
C'était 1989, donc.
Oui, l'émission d'Arte est très importante. C'est donc...
Le 3 avril dernier.
C'était 3 avril dernier. On pouvait penser d'ailleurs qu'on allait vers une reconnaissance de l'authenticité, ce que nous espérons. Eh bien, donc c'est sur Arte. Nous l'avons mis sur un site qui est linceul-de-turin.info. Hein, où il y aura notre demande d'authenticité, donc linceul-de-turin attaché info. Il faut bien visionné cette émission, qui dit, ce qui est tout à fait ahurissant d'ailleurs pour des grands professionnels qu'on nous présentait, c'est que l'échantillon a été pris à un endroit où il y avait évidemment du lin d'un côté et il y avait du coton de l'autre, effectivement, ce qui explique, pour faire très court, que la datation soit fausse. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'observation expérimentale, ça veut dire, comme l'a dit Ray Rogers, mais voyez le film, qu'effectivement personne ne s'est penché sur la question, on n'a même pas vu qu'il y avait une gélatine, enfin c'est quand même très étonnant pour ce qu'on nous avait présenté comme le nec plus ultra de la datation.
La datation au carbone 14 ne s'est pas faite dans des conditions scientifiques.
Non mais quand j'ai affirmé que c'était faux, bon, elle n'est pas faite, pourquoi elle n'a pas été faite dans des conditions scientifiques? Premièrement parce que le béaba d'une datation archéologique, c'est d'avoir un archéologue. Donc, les dateurs avaient refusé. Deuxièmement, c'est d'être interdisciplinaire. Il n'y a pas qu'une datation au carbone 14. Il y a tout un ensemble de datations. Et la datation principale, je vais quand même vous le dire, c'est le morceau quand même important, c'est par l'événement. Parce que si je vois votre photo à un endroit, ça me permet de dater. Bon. Or, ce qui date de la Salle de Turin bien mieux que tous les carbone 14 réunis ou toute autre chose, c'est l'événement, l'impression retrait sans contact, c'est-à-dire la dématérialisation. C'est-à-dire que dès que vous regardez votre montre, eh bien, c'est par rapport à la résurrection, à un décalage de 30 ans près. Donc, tous les ordinateurs du monde fonctionnent par ce fait. Bon, et la meilleure datation, c'est que quand vous voyez sur un linceul un fait qui a été, qui s'est produit dans un cadre social, parce qu'une crucifixion, ça se fait pas à la sauvette, eh bien, vous pouvez dire que, puisque c'est comme ce qui s'est passé au Vésuve, quand vous voyez une personne prise dans la lave, c'est une datation, et là, ce qui, le linceul de Turin témoigne du fait à l'origine de notre ère, c'est-à-dire ce que les scientifiques appellent une dématérialisation et ce qui est appelé résurrection dans les évangiles.
Arnaud Pasqui, notre grand témoin ce matin, l'Église à l'épreuve du linceul, et vous qui dites-vous que je suis, c'est aux éditions François-Xavier de Guibert, 8h13. Gérard Leclerc est avec nous, comme chaque matin, du lundi au jeudi, pour son édito. Bonjour Gérard.
Bonjour Louis, et bonjour à Monsieur Pasqui.
Et ce matin, un détour évidemment par Turin.
Oui, et je vous écoute depuis le début de l'émission avec le plus grand intérêt, et en fait, les questions que je vais poser seront un peu la répétition de celles que vous venez d'évoquer, mais tant pis. Benoît XVI, hier, en allant prier devant le Saint-Suaire, dans la cathédrale de Turin, a parlé d'une icône écrite avec du sang. Je trouve cette expression assez remarquable pour désigner cette pièce de tissu ô combien vénérable. Il me semble, et vous l'avez redit plusieurs fois, que c'est l'archevêque de Turin, au moment des résultats de l'analyse au carbone 14, qui avait pour la première fois utilisé ce mot d'icône. La situation était alors embarrassante, puisque le Saint-Suaire était déclaré par la science d'origine médiévale. Et il était délicat de parler de relique. Icône, cela avait au moins l'intérêt de ne pas prendre position sur la question scientifique, de l'éluder en quelque sorte. Mais cela avait surtout la vertu d'évoquer une vérité supérieure de l'image, une image exprimant mieux que toute le corps crucifié de Jésus. Les chrétiens pouvaient bien continuer à vénérer en masse le Saint-Suaire, même s'il avait été fabriqué au Moyen-Âge, il représentait si bien le mystère de la rédemption, Jésus mis au tombeau, et témoignait dans son extraordinaire noblesse de sa victoire sur la mort. Comme énormément de monde, j'avais été moi-même troublé par cette datation au carbone 14, ayant de surcroît reçu à l'époque le verdict d'un scientifique français, adepte résolu de l'authenticité, qui s'était incliné devant le verdict, m'assurant que toutes les précautions, et même au-delà, me disait-il, avaient été prises lors de l'expérimentation. Et pourtant, me disais-je, comment est-il possible que ce tissu médiéval soit d'une telle exactitude factuelle, historique, reflétant la réalité de façon si saisissante, sans pouvoir à aucun moment être prise en faute ? Oui, c'était bien un sans-faute, qui rectifiait d'ailleurs toutes les erreurs de l'iconographie classique à propos de la crucifixion, et nous permettait de mieux comprendre certains termes des textes évangéliques. Jusqu'avant le linceul mal identifié. Qu'on le veuille ou pas, le linceul de Turin demeurait une extraordinaire énigme scientifique au-delà de sa valeur d'icône. J'observais dans le milieu catholique un clivage. dont je me demande s'il existe encore aujourd'hui de façon aussi marquée. Il y avait en effet d'une part les partisans fervents de l'authenticité, il y avait ceux qui semblaient se méfier, et parfois au plus haut point de cette image. Ils craignaient sans doute qu'elle ne devienne une sorte de cinquième évangile et ne soit idolâtrée. Il est vrai que le Saint-Suaire pose aussi un extraordinaire problème théologique. Car s'il est ce que dit notre ami Arnaud Upinski, s'il a réellement enveloppé Jésus de Nazareth, il est une icône de la réalité même de la mort du Seigneur, la représentation de sa passion et de son corps supplicié en temps exact. Et notre foi prend ainsi appuie sur cette preuve matérielle irrécusable qui devient dans une certaine acception un autre évangile, l'évangile du Saint-Suaire. Et il est vrai aussi que c'est la foi elle-même qui en serait affectée et se fonderait désormais sur une preuve matérielle, alors qu'une certaine théologie préfère la foi nue. Une foi qui d'ailleurs a réduit à certains moments les évangiles écrits à un minimum absolu d'historicité. Il me semble que la foi spécifiquement catholique requiert plus de positivité matérielle, et qu'elle n'est pas hostile à une attestation aussi manifeste. Ainsi, le Saint-Père, en parlant hier d'icône avec du sang, écrite avec du sang, a-t-il ouvert une perspective qui se rapproche de celle-là, une icône qui serait l'image réelle de la passion et aussi de la résurrection.
Gérard Leclerc, vous restez avec nous, bien sûr. Arnaud Upinski, l'Église à l'épreuve du linceul, et vous qui dites-vous que je suis aux éditions François-Xavier de Guibert, peut-être une première réaction sur le Saint-Suaire bien embarrassant, en fait, hein. Arnaud Upinski.
Non, mais il y a dans tout ce qui vient d'être dit, donc il y a plusieurs points, c'est notamment une question de mots, c'est-à-dire qu'on dit des scientifiques, la datation qui a pas datateur n'était pas une démonstration scientifique, on le sait, parce qu'elle n'avait pas les garanties. Bon, un scientifique dit ici, etc., c'est pour ça que nous avons réuni à Rome l'ensemble de la communauté, parce que la science est comme le Parlement, il faut qu'il y ait tout le monde, c'est pas une personne, une autre, une opinion, etc. Ensuite, deuxième remarque, si effectivement on dit c'est une icône qui était médiévale, mais si on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas le droit en parler. Et pourquoi est-ce que finalement il y a eu une sorte de consensus pour faire comme si c'était vrai tout en disant pas que c'était vrai? C'est parce que tout le monde a retrouvé l'iconographie byzantine. Donc c'est pour ça que tout le monde reconnaît le Christ, parce que c'est le Christ Pantocrator. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le Christ Pantocrator? Parce qu'à l'origine il y avait le linceul.
Pantocrator, définition quand même.
Tout-puissant.
Tout-puissant.
Tout-puissant, bon. Alors, donc, une chose qui est très importante que vous avez dit, et je vous en remercie, c'est que vous dites que les chrétiens ou la communauté sont partagés. C'est pas ça la question pour un scientifique. La procédure, c'est la procédure qui compte. Quand il y a un avion qui décolle, c'est pas une question de foi ou d'autre chose, c'est qu'on suit la procédure. Or, ce qu'on a refusé actuellement, on est sorti de la procédure, il y a eu une procédure qui a été suivie par Sixte IV, par Paul II, et je voudrais citer quand même une chose très importante, c'est, parce qu'on a toujours l'impression d'inventer l'autre ciel actuellement. On a un passé, il y a une procédure qui est suivie, on est dans un certain état, la datation carbone 14 a fait rétrograder le statut religieux du linceul de Turin de relique à icône. Maintenant, le carbone 14 est mort, il faut revenir automatiquement à la définition précédente. C'était la seule justification.
Or, mais est-ce qu'on est... Alors allez-y.
Ce que disait Pion, c'est très important. Le 5 septembre 1936, Pion, après 5 années d'études et en rapport avec la Vierge, disait « Ce sont des images de son divin fils. Elles viennent précisément de cet objet encore mystérieux, mais certainement non fait de main d'homme. » Entre parenthèses, ceci, on peut le dire, déjà démontré. Fin de parenthèse. Qu'est le saint linceul de Turin. Nous avons donc mystérieux, dit mystérieux parce que beaucoup de mystères entourent encore cette chose sacrée, mais certainement c'est une chose sacrée comme peut-être nul autre. Et assurément, on peut désormais dire la chose avérée de la façon la plus positive, même en faisant abstraction de toute idée de foi et de piété chrétienne, ce n'est certainement pas une œuvre humaine. Voilà le genre de langage précis auquel il faut revenir.
Il y a la question... 1936.
Oui, donc il y a la question scientifique. Bon, alors d'autre part, il y a quand même une question qu'il faut dire, c'est que quand je dis que le linceul de Turin, c'est la pièce à conviction dans le procès le plus ancien, qui était celui du Christ,
qui se poursuit sur l'insol de Turin, il faut un petit peu s'interroger sur ce qu'a fait le Christ, Jésus de Nazareth, pour se faire reconnaître. Si quelqu'un sort dans la rue en disant « Je suis le Messie », ça n'ira pas très loin. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû, il s'est appuyé sur deux choses. D'une part, les textes, en disant « Voilà ce qui était prophétisé, voilà ce que j'ai fait », pour faire très court. Et deuxièmement, il a fait des miracles. Alors ceux qui pensent que la foi, c'est uniquement croire au Père Noël, etc., qu'ils expliquent, qu'ils regardent ce qu'a fait le Christ a dû se justifier, et il a fait constamment des miracles, et je crois que le miracle est une chose matérielle. Et justement, quand il dit « Vous n'aurez plus qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas », on peut s'interroger actuellement sur une église, si vous voulez, qui tarde en tout cas à faire son devoir de vérité, à renouer à ce qui avait été fait, c'est-à-dire la science, la science, la science. Il faut d'abord savoir ce qu'est une chose avant d'en parler.
Mais alors, où en est-on, Arnaud Hupinski, du point de vue justement de la procédure scientifique ? Parce qu'aujourd'hui, Benoît XVI n'a rien annoncé. Pour l'instant, il a parlé d'une icône écrite avec du sang, point. Oui. Que devrait faire aujourd'hui le Saint-Siège ?
Alors là, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'il y aura peut-être des recherches. On n'a plus besoin de recherche. Il y a zéro résultat scientifique nouveau sur le linceul depuis 20 ans. Zéro. Toute la question maintenant, c'est sur une technique d'expérimentation qui est le carbone 14, qui bafouille, qui a des problèmes, mais c'est les problèmes du carbone 14. Maintenant, il est mort, ça ne nous intéresse pas. Les états d'âme du carbone 14 ne nous intéressent pas. Ian Wilson en parle dans son livre, c'est plutôt un peu glauque, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est linceul de Turin. Actuellement, on veut cacher la vérité parce qu'on ne veut pas tirer les conséquences de cette vérité. La vérité dérange peut-être. Vous avez évoqué des questions théologiques et d'autres, ce n'est pas mon affaire, il faut d'abord reconnaître le fait. Et après,
mais
on en discute.
L'Église aurait tout intérêt à dire que c'est authentique.
Alors, ben voilà, donc il y a peut-être un problème, comme il vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme le père Maldamé qui disait que finalement, s'il y avait une preuve, ça contraindrait la foi.
Ce qu'a dit Gérard Leclerc, justement.
Ce qui a été dit,
bon,
c'est pas mon problème. Mais se dire, ce qui est très, dans l'état actuellement, justement, de doute, de tout, qui n'est pas mon affaire, eh bien, une preuve, on a besoin d'une preuve. Et on peut se dire, si on se place du point de vue chrétien, non plus scientifique, dans ce que les chrétiens appellent l'économie de la révélation. On peut dire, si le linceul de Turin est là, c'est peut-être qu'il y a une raison, et si sa balise se met à fonctionner, c'est peut-être que la balise principale bafouille. Et actuellement, sur le linceul, elle bafouille, parce que lui reconnaître une évidence, quel est le problème d'une résurrection ? Lorsque vous prenez ce qui se passe dans le corps humain, avec quand vous prenez un produit qui se transforme en sang, autre chose, donc le miracle est permanent, j'allais dire, dans la biologie. Donc la seule question, c'est de savoir si c'est vrai ou faux. Vous prenez un œuf, par exemple, où est le bec du poulet ? Vous avez du jaune. Blanc. Donc la vie est pleine de mystères, l'Église a effectivement sa mission, c'est pas la mienne, c'est la sienne, et elle doit faire ce qu'elle a toujours fait, et pour répondre à ce que vous dites, c'est que qu'est-ce qu'elle doit faire ? Bah, très simplement ce qui a toujours été fait, maintenant immédiatement de dire que le statut d'icône est fort clos puisque le carbone 14 est mort, alors même sur le site du linceul de Turin, il est bien dit que le débat est ouvert, donc c'est fini, le carbone 14 c'est mort. Il y a d'autres datations, je viens d'indiquer la principale, mais vous avez les datations, vous avez le codex de Pré, vous avez disons que...
Il y a quantité d'autres datations.
Il y a plein d'autres.
Mais est-ce qu'elle pourrait demander, est-ce que le Saint-Siège pourrait par exemple demander, est-ce qu'on refasse une datation au carbone 14? Est-ce que ça semblerait pertinent?
Mais non, mais justement, actuellement on est en train de ressusciter en permanence le carbone 14, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la résurrection du Christ, d'une manière ou d'une autre.
De l'impression retraite en contact.
Bon, la difficulté maintenant, c'est que refuser le signe du linceul, parce que c'est le signe du linceul, c'est refuser le signe de Jonas. C'est quand même assez étonnant du point de vue. Bon. Et donc, la datation carbone 14, c'est évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on a pris soin, c'est ce qu'a dit Ray Rogers, de dire que comme on a introduit un produit actuellement qui renforce le dosage en carbone 14, ça pose des problèmes, mais qu'on a gardé un petit bout. Tout ça, c'est, si vous voulez, c'est des mesures dilatoires. C'est-à-dire que je veux bien qu'on fasse un symposium sur la datation du linceul, pourquoi pas, on l'a fait. Et ce qui m'a permis d'affirmer que le carbone 14 était faux, c'est comme si je vous vois, j'ai votre photo, elle est infalsifiable, et je donne à un spécialiste du carbone 14, il me dit, tiens, ça c'est du 12e siècle. Je dirais, vous êtes trompé quelque part, ça m'intéresse pas où. Parce que le linceul de Turin, c'est une évidence, on refuse cette évidence, et le linceul de Turin témoigne du fait que la vérité actuellement, c'est la valeur la plus honnie de notre civilisation, à tous égards, dans les tribunaux, dans les médias, et ce qui est très inquiétant actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un consensus basé sur la science, mais ce sont des opinions. Ce qui compte, c'est pas l'opinion, que dit la science. La science, nous l'avons fait à Rome, il n'y a pas eu de contestation sur ce qui a été fait à Rome, et la meilleure preuve du bon travail qu'on a fait, c'est qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'actuellement, on parle des Américains, on parle du carbone 14, on essaie de le ressusciter, on essaie d'empêcher le linceul de Turin de faire ce pour quoi il était fait, c'est-à-dire de transmettre son message.
Mais alors, est-ce
qui est celui de Jonas.
Pourquoi Arnaud Hupinski, là, rapidement, pourquoi est-ce que l'Église se trouve embarrassée, en fait, par le Saint-Père ? Et pourquoi ce statut de la vérité est un problème ?
Alors, pourquoi il faut lui poser la question, mais cette question va devenir de plus en plus intenable, c'est-à-dire qu'on voit très très bien, comme il a été dit, pour ne prendre qu'un exemple, il y a la question de l'œcuménisme.
Bon. C'est-à-dire que c'est la question de hors de l'Église, pas de salut. C'est-à-dire que j'ai demandé à un communiste, j'ai posé la question à un communiste, parce que comme je vous l'ai dit dans cette affaire, c'est ceux qui sont le plus loin, je veux dire, de la foi d'une certaine manière, qui voient les choses comme elles sont, parce qu'ils n'ont pas cette inquiétude. Il m'a dit, écoutez, c'est très simple, si le linceul, effectivement, est authentique, il est unique, c'est l'universel de l'universel, et effectivement, c'est insupportable pour les autres. Donc, je veux dire ça, si c'est une chose qui, la vérité.
Ça serait perçu comme une agression à l'égard des autres religions auxquelles on doit le respect, c'est ça?
C'est-à-dire, il faut chercher du côté des conséquences. Mmh. C'est-à-dire qu'on le voit très bien que la vérité, celui qui dit la vérité doit être assassiné, dit la chanson. C'est-à-dire qu'effectivement, le linceul de Turin, c'est un objet géopolitique, on peut dire, qui déplace complètement la géométrie des religions, la géométrie de l'orientation de notre société. C'est-à-dire qu'on avait dit que la science était opposée à la foi, et là, par une sorte de paradoxe, que vous releviez, tout à coup la science dit d'ailleurs coucou, d'ailleurs c'est vrai. Donc toute l'économie,
c'est une ironie incroyable,
toute la direction de la pensée actuellement est complètement déstabilisée, parce que d'abord ça oblige à regarder la vérité, ça oblige parce qu'actuellement on manipule l'opinion comme dans les conditions qu'on sait, c'est-à-dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc là ça oblige, un, à se recaler sur la science, mais non pas uniquement la science pour faire voler les avions, mais la science de la vérité. Ça oblige à être conséquent, ça oblige à être cohérent, ça oblige à ne pas être relativiste, et ça oblige à dire, y a-t-il une vraie religion?
Mais justement, Benoît XVI n'est pas relativiste, à première vue.
Ben voilà,
parle de cette dictature du relativisme.
C'est la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire que ce que nous demandons actuellement, et un courrier va être envoyé, à Benoît XVI, c'est qu'actuellement, la science a parlé, le carbone 14 n'existe plus, donc la route est ouverte actuellement pour l'authentification, pour que le statut religieux du linceul de Turin.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Arnaud Hupinski, l'Église à l'épreuve du linceul. On retrouvera naturellement toutes les questions relatives à la science dans cet ouvrage extrêmement documenté. Et vous qui dites-vous que je suis aux éditions François-Xavier de Guibert, vous êtes mathématicien, épistémologue, et vous avez dirigé le symposium de Rome en 1993 qui a conclu à l'authenticité du linceul de Turin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques secondes avec les infos. C'est avec Radio Vatican en direct de Rome.